진짜 끝이야.
Merci Ruben Agian d'avoir accepté une seconde fois de venir à Radio Créa.
Merci de m'avoir invité.
Donc, on est ici aujourd'hui pour parler d'éthique minimale. D'éthique minimale, ça fait longtemps que tu en parles, mais entre autres, tu as publié chez Folio Essai un petit livre qui s'appelle L'éthique aujourd'hui.
Maximaliste.
Et voilà. Et dans lequel tu distingues les maximalistes et les minimalistes, chose qui, moi qui ai lu beaucoup en éthique, je ne suis pas habitué de voir, donc j'ai l'impression que c'est assez original comme façon de regarder le champ des théories éthiques. Et quelque chose qui est central à la distinction que tu fais, c'est l'asymétrie morale. Et si je comprends bien, les maximalistes incluent dans les torts moraux ce qu'on peut faire à soi-même, alors que pour toi, il y a une asymétrie, on ne peut pas se faire de tort à soi-même. Mais est-ce que tu pourrais parler un peu de cette asymétrie morale?
Alors, je peux peut-être situer le point de départ. Dans Penser la pornographie, j'avais déjà eu une certaine idée d'éthique minimale, mais elle était, celle qu'on peut placer dans l'affiliation du libéralisme politique de John Rawls, etc., qui consiste à dire que sur les conceptions du bien, on ne peut aboutir qu'à une sorte de désaccord raisonnable, donc l'État devait être neutre à l'égard de ses conceptions du bien. Et donc, c'était dans ce sens que j'avais envisagé cette idée de minimalisme. Et là, j'étais pas le seul, c'était un peu un état minimal du point de vue éthique. Hein, Et puis, il y a eu des développements. Je me suis focalisé sur cette question. Je me suis demandé, mais quelles étaient les raisons pour lesquelles l'État devait être neutre à l'égard des conceptions du bien et pas à l'égard des conceptions du juste. L'idée, c'était que ces conceptions étaient trop controversées pour pouvoir faire l'objet d'une politique d'État, c'est-à-dire en privilégier une, ça serait nécessairement l'imposer à ceux qui ne la partagent pas. Donc je me disais que si l'État doit être neutre à l'égard des conceptions des biens, c'est pas simplement parce qu'elles sont controversées, il doit y avoir autre chose. Et puis je me suis dit qu'il était plus facile finalement de justifier la neutralité éthique de l'État à partir du principe de Mill, de la non-nuisance aux autres. Et donc ce principe nous dit que la seule justification de l'intervention par la menace ou la force d'une communauté civilisée, comme il le dit, ou de l'État, c'est de prévenir ou de compenser des torts qui ont été causés aux autres. Mais ça, c'est une vision qui est purement politique. En ce qui concerne les rapports entre les personnes, on peut très bien avoir toutes sortes d'autres raisons d'intervenir pour le bien des personnes. Le principe de Mill, c'est un principe qui exclut toute forme de paternalisme d'État, c'est-à-dire toute intervention pour protéger les gens de eux-mêmes, pour leur bien. On ne peut intervenir que pour empêcher un mal ou pour compenser un mal. Mon idée, au fond, c'était que ce principe de non-nuisance aux autres, c'est lui qui établit une sorte d'asymétrie entre le rapport aux autres et à soi-même, qui exclut toutes les formes de paternalisme. On pouvait lui donner une valeur éthique, ce qui n'est pas du tout le cas chez les libéraux politiques, Mill inclus. Donc, c'est difficile dans une brève vie là, d'avoir le sentiment qu'on peut peut-être, apporter quelque chose à cette immense histoire. Bon, c'est pas... mais là, c'était pas tellement cette idée de minimalisme, mais l'idée qu'on pouvait très bien, au fond, étendre le principe de non-nuisance aux autres à l'éthique aussi. Bon, ça, c'était l'intuition de base, et c'est ce principe de non-nuisance aux autres qui contient déjà cette forme d'asymétrie. Alors, mais qu'est-ce qui justifie ce principe de demande? Qu'est-ce qui justifie cette asymétrie dans le rapport de soi à soi et le rapport de soi aux autres? Et pour le justifier, j'ai pensé à différentes choses, mais il m'est paru d'abord qu'il était fondé sur des intuitions morales complètement élémentaires, comme celle qui fait qu'on ne va pas du tout juger de la même façon une conduite qui... Bon, pense à Van Gogh, par exemple. Alors, Van Gogh se coupe l'oreille. Bon, on peut avoir toutes sortes de jugements à cet égard. On peut considérer qu'il n'est pas très prudent, qu'il s'est fait du mal, mais on ne dira pas qu'il s'est comporté de façon immorale. Du moins, ce serait la première réaction. En revanche, s'il s'était jeté sur le premier passant pour lui couper son oreille sans lui demander son opinion, sans qu'il ait consenti, je pense que ce genre d'acte aurait été susceptible d'être jugé du point de vue moral. Donc l'idée qui est derrière cette intuition, c'est qu'il y a une asymétrie morale, en ce sens que ce que nous faisons à nous-mêmes, les torts que nous causons à nous-mêmes, n'ont pas la même valeur morale que les torts qu'on cause aux autres. C'est pareil pour le suicide, donc un cas moins manifestement pathologique, où on peut considérer qu'il y a une différence morale entre le fait de mettre fin à ses jours et le mettre de fin au jour de quelqu'un d'autre sans lui avoir demandé s'il y consent. Il est vrai que ça me paraissait tellement massif, enfin tellement évident comme différence, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a absolument pas reconnu cette différence par les grandes traditions morales, qu'elles soient utilitaristes, anciennes, ou celles qui nous est venue maintenant sous le nom de l'éthique de la vertu dans la tradition aristotélicienne. Parce que quand on y réfléchit, chez l'utilitariste, bon, il fait son calcul des plaisirs et des peines, et le bien et le mal qu'on se cause à soi-même est inclus dans le calcul félicifique exactement au même titre que le bien ou le mal qu'on fait aux autres. Pour le kantien, il faut respecter son humanité dans sa propre personne, exactement de la même manière que dans celle d'autrui. D'ailleurs, ça justifie la condamnation parallèle du suicide et du meurtre. Et puis, évidemment, l'ami des vertus, c'est celui qui est le plus orienté vers le genre de personne qu'il faut être. Et c'est du côté des vertus qu'on va trouver cette insistance sur les vertus de tempérance, d'endurance. On a des vertus qui consistent au contrôle de soi-même, un rapport à soi, qui semble être, la finalité même de ce genre d'éthique. Donc finalement, ce n'est pas du tout dans les conceptions morales les plus... enraciné dans la tradition philosophique, que je pouvais trouver une justification à cette intuition qui me semblait assez évidente. Très étroit, donc, entre le principe de non-nuisance à autrui comme principe politique, son extension au domaine éthique, le fait que ça s'appuie sur une intuition morale aussi forte que celle de la symétrie morale entre mon rapport de moi à moi et le rapport de moi à autrui, qui s'exprime dans le suicide ou des actes d'automutilation comme celui de Van Gogh, et puis aussi cette idée qui est très très présente dans le droit contemporain, que le droit doit être séparé de la religion et de la morale telle qu'elle est conçue dans la tradition morale, qui insiste beaucoup sur le rapport à soi-même. Et donc, elle ne punit pas trois catégories d'actes, en principe, hein, je dis bien, les actes qui sont dirigés vers soi-même. Donc, on a cessé de criminaliser le suicide. Et parmi les autres, donc il y a les torts qu'on se cause à soi-même, il y a aussi ceux qui sont le fait de personnes consentantes, comme par exemple les jeux d'argent, les rapports homosexuels, la prostitution, dans lesquels, là aussi, on peut dire qu'il n'y a pas de victime, puisque les personnes sont en principe engagées dans une convention à laquelle ils ont consenti. Et puis, disons, toutes les atteintes à des entités abstraites, comme les dieux, les anges... la patrie, l'hymne national, le drapeau de la nation, etc. Donc ça nous fait un ensemble énorme, en fait, de choses qui sortent du champ de la criminalisation et qui correspondent exactement à la fois à cette asymétrie morale, au principe de non-nuisance à autrui, et c'est cet ensemble que j'appelle le minimalisme, qu'on peut définir au fond de façon extrêmement simple, c'est que c'est simplement une théorie morale qui laisse tomber les devoirs envers soi-même, le rapport à soi-même. Alors quand
Alors, soi-même
on...
n'est pas une victime, en ce sens.
Non, dans le sens où, dans la mesure où je consens à ce que je me fais, ou bien je ne suis pas une victime au sens moral si l'action est purement pathologique, si, donc dans ce cas-là, elle sort du jugement moral, mais si je la fais intentionnellement et qu'elle se dirige vers moi-même, donc elle est faite avec mon consentement. Évidemment, la question est de savoir alors si le consentement annule les torts. De nombreux juristes, de nombreux philosophes ne reconnaissent pas, mais c'est pour ça qu'il faut voir tout cet ensemble dans le même univers moral, dans lequel les personnes qui vont rejeter le principe de non-nuisance à autrui comme seul principe de légitimité de l'intervention de l'État dans son l'usage de la menace et de la force seront peut-être aussi les mêmes qui considèrent que le droit doit sanctionner les crimes sans victime, comme l'homosexualité, les rapports, la prostitution, le suicide, etc. Donc on a quand même un tableau pour lequel il était pas inutile d'avoir une étiquette. Alors, le terme minimalisme, le terme maximalisme, ce n'est pas la première fois qu'ils sont utilisés en philosophie. Il y a un livre de Michael Walzer qui utilise ces concepts, mais la différence, c'est qu'aucun n'est défini par, de cette façon, on peut dire presque élémentaire, un peu basique, que, elle est minimale dans le sens où les devoirs envers soi-même sont exclus, ainsi que les devoirs envers les entités abstraites, ainsi sont exclus aussi du jugement, du blâme moral, les relations entre personnes consentantes, quand évidemment elles n'ont pas comme objectif de nuire aux autres, parce qu'on peut faire toutes sortes d'associations entre personnes, par exemple les associations mafieuses ou criminelles, tout le monde consent à embêter les autres, mais c'est exclu par le premier principe. Donc voilà en quoi on pourrait dire le minimalisme moral peut se résumer simplement à l'idée qu'on exclut du domaine de l'éthique le rapport à soi-même, qu'il soit donc impératif sous forme de devoir envers soi-même ou qu'il soit non impératif sous forme de vertu personnelle, de souci de soi.
J'ai une expérience de pensée par rapport à ça. Donc, l'autre jour, j'organise une fête et j'ai pas pu parler à tout le monde à la fête. Je ne leur ai pas causé de tort en ne leur parlant pas, quoique peut-être que je leur ai causé du tort en leur parlant. Mais bon, en n'ayant pas le temps d'aller leur parler et tout, je ne leur ai pas causé de tort. Mais le lendemain, je me sentais mal. Je me sentais mal d'avoir pris le temps de communiquer avec eux. Ça serait difficile pour moi, quelque part, d'abandonner tout ça, de dire de tous ces devoirs-là que je m'impose à moi-même et qui causent pas vraiment de tort à autrui, que je les fasse ou pas. Mais c'est comme, cette image que je me renvoie à moi-même de vouloir être une meilleure personne et d'essayer d'être meilleur, c'est seulement, disons, une catégorie de développement psychologique individuel et finalement, je me suis peut-être trompé. En me représentant comme une meilleure personne, moralement parlant, que de tendre vers cette amélioration-là. Ou alors, est-ce que tu répondrais, ben, dans tous les cas où ça compte moralement, c'est parce que finalement, autrui est impliqué.
C'est vrai que j'aurais tendance à le répondre, mais je dois faire aussi, là je suis un peu en train d'évoluer sur cette question. J'ai l'impression que finalement, on peut envisager des systèmes moraux différents, donc qui donnent une extension différente au domaine moral. Et au lieu de dire, comme c'était mon sentiment dans l'éthique aujourd'hui, que finalement il n'y a qu'une conception éthique qui est valable, c'est le minimalisme, parce que je pense que les devoirs envers soi-même sont des. Enfin, l'idée de devoir envers soi-même est incohérente, elle pose des problèmes conceptuels, et donc ce n'est pas une mauvaise chose de s'en débarrasser. De la même façon, l'idée d'une vertu morale personnelle. Hein. On peut avoir des vertus personnelles, on peut avoir des vertus professionnelles, on peut avoir toutes sortes de vertus, mais une vertu qui serait morale, pour laquelle il serait légitime d'employer l'idée de moralité, ça me paraît plus contestable, bon, pour différentes raisons. Donc là, je pourrais envisager qu'au fond, tu es peut-être maximaliste, et donc tu considères que le domaine moral est bien plus vaste que celui que je veux circonscrire, un peu, donc tu es un peu moins libertaire qu'est-ce que tu penses. Mais d'un autre côté, ce que j'aurais plutôt tendance à dire encore dans cette période un peu de transition, si je peux dire, c'est que, au fond, il n'y a pas que l'éthique dans la vie, il n'y a pas que le jugement à caractère moral, il y a des jugements esthétiques, il y a des jugements prudentiels, il y a aussi des jugements, je dirais presque philosophiques souvent. Le genre de vie que les moralistes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des trois grandes théories morales, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à voir ce qu'on appelle une vie philosophique comme une vie morale. C'est-à-dire la vie philosophique, c'est la vie réfléchie, c'est la vie qui est une vie qui est prise dans une totalité. Enfin, là, toutes les descriptions aristotéliciennes peuvent être appropriées. Mais pourquoi dire que c'est une vie morale? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a une espèce de, comment dire, de... Les philosophes ont souvent la tendance à voir l'éthique dans les lunettes de ce qu'ils font eux-mêmes. Ils pensent que ce qui est moral, c'est d'être un philosophe, probablement. D'ailleurs, c'est une idée qui est dérivée de l'éthique qu'on peut dériver de l'éthique de la vertu. On a quand même un modèle de personne qui est le philosophe rationnel, tempérant, qui modère un peu ses passions, pour qui une vie non réfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue, etc. Mais on a quand même tout un... et qui vaut probablement plus que la vie de qui, je sais pas, celle d'un pompier volontaire, elle est faite de plus de mouvements d'enthousiasme, et donc je pense que ça c'est une projection, c'est le terme que je cherchais, une projection sur l'éthique, parce que probablement il y a une espèce de révérence à l'égard de ce qui est éthique, de ce qu'on appelle une vie philosophique. Tu es donc tout simplement peut-être philosophe quand tu as cette réflexion sur toi-même, sur ce que tu as fait, mais cette partie de ta réflexion philosophique qui s'intéresse à l'autre, alors là je dirais que oui, là elle prend une dimension éthique, mais il y a aussi une dimension esthétique dans la réflexion sur nous-mêmes. On veut donner une bonne image de nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on doit complètement exclure, et puis prudentiel. On fait peut-être attention à ce que nos intérêts soient respectés, on veut que nos intérêts soient prospères. Donc voilà au moins trois autres façons de juger ce petit événement qui était arrivé, du point de vue esthétique, du point de vue prudentiel et d'un point de vue philosophique beaucoup plus général, mais qui ne serait pas nécessairement éthique. En fait, c'est un tableau dans lequel il y a tous ces éléments du rejet du paternalisme, du rejet de l'idée de crime sans victime, de la symétrie morale, de l'extension du principe de non-nuisance à autrui à l'éthique. Et c'est ce tableau qui doit avoir une certaine cohérence et qu'on appelle le minimalisme. ça, certainement. C'est-à-dire le fait d'alléger l'éthique des devoirs envers soi-même ne dit pas qu'on a construit une éthique qui est peu exigeante. D'ailleurs, je pense que l'une des choses les plus compliquées, c'est de se retenir, de protéger les gens d'eux-mêmes, et c'est de se retenir de nos tendances au paternalisme. D'ailleurs, Mill le disait dans De la liberté, il disait que l'une des tendances les plus naturelles chez l'homme, c'était d'étendre sans limite la police morale. Et c'est d'ailleurs, je crois, l'exergue que j'ai
Citation qui
fait.
ouvre le
Ouais,
livre.
ouais.
On termine sur ce qui ouvre le livre.
Merci, merci.
Bon, ben là, on commence pour vrai.
Sur des questions de justice. Questions de justice.